hier soir, 19h58, devant la soirée électorale.
Tout le monde a des chips ?
Moi j'ai des curly parce que c'est délicieux les curly.
Ouais, moi je peux rien manger, je suis trop concentré là.
Allez Guillaume, détends-toi, vous nous faites le coup tous les 5 ans avec l'élection.
Ouais, et puis on sait très bien comment ça va se terminer.
Bah, exactement comme il y a 5 ans.
Voilà. Non, mais là j'ai l'impression qu'il y a une dynamique là, tout le monde en parle. Oh,
bah, attends, mais pour qui ?
Une dynamique poutou là, c'est sûr.
Ouais. Parmi tes fans en licence de psycho.
Non, ah non, parce qu'elle, elle vote Mélenchon. Enfin, Jadot pour celle qu'on a Djembé. Mais en revanche, pour ce qui est du reste des Français, je crois qu'il peut créer la surprise. Ah ouais.
Taisez-vous !
Oh là, oh là là.
Se calme la Finkielkraut.
Non mais c'est maintenant là. 5, 4, 3, 2, 1.
Il est 20h. Voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%. Devant Marine Le Pen avec
20%.
Oh là là. Non mais là je suis sur le cul là.
Je suis Valérie Pécresse, 5%.
Ah vraiment, pour les surprises on repassera.
Notez à 2,1% la socialiste Anne Hidalgo.
Bah enfin, et Poutou alors.
Tiens, reprends une chips Guillaume.
Attendez, c'est le premier discours là.
C'est le discours de Poutou.
Non, t'inquiète pas Guillaume, ça va aller, ça va aller.
C'est quoi, on va tous se calmer, on va se regarder un petit film du dimanche soir sur TF1.
De toute façon, j'ai toujours dit, la France c'est un pays de gueux, voilà.
Ça, je te le confirme, hein, depuis toujours. Hein. D'ailleurs, on le voit bien dans
Les visiteurs, on va regarder visiteurs.
J'ai même plus envie de rire.
Ça va aller Guillaume.
Mais garde un peu d'énergie pour le second tour. Là, tu sais déjà pour qui tu vas voter.
Ah bah oui, alors là bien sûr, et voilà. Cette fois j'espère qu'on gagnera.
Hein. Quoi ? Attends, mais tu vas voter pour qui ?
Ah bah Poutou ! Bien sûr Poutou ! Bah oui !
Et dans le déni.
Bonjour la France Inter, bienvenue au Politburo de la blague. Et voici la devise du jour, il ne faut jamais désespérer, sauf entre les deux tours. Est-ce que nos nerfs vont tenir pendant ces 15 prochains jours ? Cette fois, ça craint vraiment, nous dit la Une de Libération. L'entre-deux-tours est placé sous le signe du Lexomil pour la moitié du pays, celle qui se désole de l'affiche du second tour.
Merde, j'ai déjà vu. Oh merde, pardon. J'ai déjà vu, pardon.
Puisque les candidats ont oublié la culture, alors parlons-en. Les salles de théâtre peinent à se remplir à cause d'un reste de Covid, de la guerre en Ukraine et des élections. Le théâtre veut donc repenser son rapport au public.
Monsieur Joly, que pensez-vous d'interpréter Othello durant 78 heures sur un trampoline ?
Il vous répondra dans un instant. Elon Musk veut diffuser de la publicité dans l'espace. Un satellite publicitaire sera doté d'un écran invisible depuis la Terre, mais qui retransmettra ces images sur YouTube et Twitch. Pour la réclame, Sky is not the limit.
On peut foutre des placards sur Notre-Dame, la Vénus de Milo, n'importe quoi. Même le président de la République veut bien faire l'homme sandwich.
Et aujourd'hui, lendemain de second tour, une émission avec la participation exceptionnelle d'Alex Vizorek.
Je suis un peu le Brice Teinturier de cette émission. Hein. Après des moments importants, il faut que je sois là, bien évidemment. Et je vais vous présenter une toute belle équipe, évidemment, 17h20. Celui qui cherche depuis hier soir le vote caché, Éric Zemmour. Il sait plus où il l'a rangé. C'est Walidia, bonjour.
Salut, moi j'ai passé une nuit blanche, j'ai attendu les résultats, donc je garantis pas de la mesure.
C'est bien de le dire. 17h30, c'est pas un journaliste, c'est un aide de vie pour partie à l'agonie. Oui. C'est rendu au chevet de Les Républicains et je pense que ça les a achevés, Guillaume. Maurice.
Ben, bonjour à tous, j'ai encore passé un bon dimanche soir. J'étais effectivement avec les soutiens de Valérie Pécresse, venu fêter tous ensemble cette grosse branlée.
Tout de suite, vous avez des grands mots.
Oui, pardon, cette lourde défaite qui ressemble à une branlée quand même, si vous regardez.
Et 17h40, celle qui a fini à 1,8%, mais c'était à cause du chardonnay. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va lire ?
D'un roman graphique qui, je pense, est très très important, y compris pour vous. Est-ce que, par exemple, vous savez ce que c'est que l'équivalent d'un gynécologue, mais pour homme ?
Moi, je dis que je suis le gynécologue de ma maman quand je... Donc ça doit être un gynécologue aussi, non ?
Un andrologue ? Ça s'appelle un andrologue.
Ah voilà. Bah voilà, je pas loin.
Très bien. Et voici celui qui
va... Je suis allé.
D'accord. On peut peut-être parler de l'invité.
Vous voulez prendre une direction, mais j'en parlerai tout à l'heure.
Mon Dieu, voici celui... J'espère qu'il va accepter, en tout cas, maintenant, de lever le rideau de l'actualité. Vous êtes...
Bonsoir, je suis Thomas Joly.
Mais oui. Yes.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bienvenue Thomas Joly.
Merci.
Et veuillez déjà par avance excuser Alex Vizorek qui a des petits problèmes d'élection aujourd'hui.
Non, c'est réglé. Hein.
D'élection.
C'est un
donc mon jeu de mots n'est pas passé.
Si.
On l'a eu.
On rigole aux deux.
Thomas Joly, bienvenue. Vous êtes comédien, metteur en scène de théâtre et d'opéra. Vous avez créé la compagnie théâtrale La Piccola Familia. Et vous dirigez actuellement le Centre Dramatique National Le Quai d'Angers. Vous y proposez d'ailleurs, pour une représentation presque unique. Attention, il y a une subtilité. Une représentation unique, la tétralogie de Shakespeare, c'est-à-dire Henri VI, suivi de Richard III. À la suite, l'intégralité de cette œuvre dure 24 heures, d'où cette représentation unique qui démarre le 4 juin et s'achève le lendemain. Je signale quand même que au Quai à Angers, le même spectacle sera proposé en deux parties ensuite, hein, à la mi-juin.
Oui, parce que 12 heures, c'est plus...
Mais donc, 24 heures.
Ben oui, c'est fou ça, parce que vous dites partout, et je sais que vous êtes comme ça, vous dites j'aime rendre le théâtre populaire, j'aime qu'il y ait des références populaires, j'aime que tout le monde passe la porte. Et quand vous dites le spectacle va durer 24 heures, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça va ensemble?
Eh bien, figurez-vous que ça m'a beaucoup ému et beaucoup surpris, mais quand on a ouvert les réservations, ça a été pris d'assaut en 2 heures. Ce qui prouve qu'au-delà de voir le spectacle, je crois que les gens ont envie de vivre une expérience, en fait, une expérience de vie partagée. Et je crois, moi, très fort à cette vertu du théâtre-là, que nous venons partager un temps de vie en commun entre la scène et la salle. Donc ces 24 heures, c'est fou. On l'a fait déjà, on a fait Henri VI en 18 heures, 4 fois, entre 2014 et 2015. On a fait Richard III ensuite tout seul. On n'a jamais collé les 4 pièces, la tétralogie, on va le faire pour la première fois, voilà.
Il y a une prise de risque?
Ouais, il y a une prise de risque parce que c'est fou, parce qu'il faut tout remonter, parce que en tant qu'acteur, pour les acteurs, pour l'équipe technique, pour l'équipe, c'est un vrai défi. L'institution ne fait pas ça, on fait pas des spectacles aussi longs. Donc il y a une prise de risque. Après, il y a surtout, je crois, la joie de la célébration du vivant. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier, parce que chaque spectacle, pour moi, c'est la célébration de ça. Et si je crois, enfin, je pense que le risque est moindre par rapport à la grande fête qui se prépare.
Mm-hmm. Allez.
De jeudi à samedi, vous proposez une autre pièce créée à Angers, Dragon, du dramaturge russe Evgeny Schwartz.
Ouais.
On pourrait dire dramaturge soviétique.
Oui, tout à fait.
Parce que c'est un pamphlet contre les totalitarismes, pièce écrite en 43-44.
Ouais.
Et qui fut interdite dès la première représentation.
Ouais.
C'est ça?
C'est intéressant, hein. Elle a été interdite immédiatement. Et puis, je l'ai lu, moi, en 2006. Je l'ai rangé dans ma petite besace imaginaire et je me suis dit que 2022, parce que j'ai créé le spectacle en janvier 2022, c'était le bon moment,
oui,
pour la ressortir.
Quel flair.
Parce qu'elle dit des choses fortes, elle dit des choses importantes, elle parle. Donc l'histoire, c'est que c'est un village qui est sous le joug d'un dragon, un vrai dragon à 3 têtes, à qui ils doivent donner de la nourriture. Et puis chaque année aussi, une jeune fille qui doit aller vers la caverne du dragon et n'en revient jamais. Cette année, c'est le rôle de, enfin, c'est le sort plutôt de Elsa, la fille de l'archiviste du village. Mais arrive en ville un étranger qui est un héros professionnel et qui décide de débarrasser la ville du dragon, ce qui va lever beaucoup de scepticisme de la part des élites corrompues, ce qui va bouleverser un peu l'ordre établi. Mais Evgeny Schwartz s'arrête pas là. Une fois que le dragon est mort, et je spoil pas la fin de la pièce puisque c'est pas la fin de la pièce, une fois que le dragon est mort et que le héros entre guillemets aussi, que reste-t-il d'un peuple qui a subi la monstruosité d'un pouvoir? Et comment se reconstruit-il? Eh bien, c'est la question que pose Evgeny Schwartz. Voilà. Alors oui, stigmatisation des minorités, culpabilisation des populations à qui on demande, des populations pauvres, à qui on demande encore plus, vision nostalgique d'un passé un peu mystifié.
C'est une fiction, quoi. Ça
ouais, voilà, il y a beaucoup de questions qui sont posées.
Alors que quand l'étranger arrive chez l'archiviste, l'archiviste lui dit « Je ne quitte jamais la ville, donc je suis heureux de voir un étranger. »
Exactement.
L'étranger s'assoit à la table. Et après, bon, ça se passe. Donc,
l'altérité, c'est-à-dire que venant de l'extérieur, venant d'un ailleurs où les règles ne sont pas les mêmes, et puis d'ailleurs parce que ce Lancelot, ce héros, c'est son travail de débarrasser le monde des monstres, des ogres, des sorcières, etc. Eh bien, il va perturber l'ordre établi. Et c'est ça qui m'a aussi intéressé parce que sans altérité, et c'est bien ça qui me pose problème depuis hier soir. Parce que c'est la même chose.
On va y venir tout à l'heure.
Sans altérité. Dans quel monde on peut vivre, quoi. Voilà.
Et donc Dragon, hein, on peut le voir, donc sera joué de jeudi à samedi, c'est 14 au 17 avril, au festival 100% à la Villette.
Non, je voulais savoir comment vous posez votre envie de metteur en scène sur un texte, parce que quand on regarde votre liste, c'est Marivaux, Guitry, Shakespeare, Offenbach, Sénèque. Et Starmania bientôt.
Et bientôt Starmania. Donc,
il y a même du Laurent Ruquier.
C'est une autre liste. mais donc, qu'est-ce qui à un moment vous fait dire, en ce moment c'est ça, je veux monter ça et j'aurais des envies là-dessus.
Je considère le théâtre comme un outil, en fait, un outil au service, parce que je fais partie du théâtre public. Donc un service au service du plus grand nombre, un outil d'art. En fait, en gros, j'essaye de lutter à mon petit endroit, moi, contre ce que j'appelle la pensée arrêtée, qui pour moi engendre de la violence, quelle qu'elle soit. Et donc le théâtre, pour moi, remet en circulation la pensée. Donc, et d'ailleurs, comment dire, il y a 2500 ans, les premières cités grecques, romaines, ont construit au cœur des cités d'abord un théâtre et un stade. Je pense que c'est pas un hasard. Et qu'il y avait même une légende qui dit que si on n'allait pas au théâtre à ce moment-là, on avait une amende. Et j'aime bien ce principe, d'ailleurs.
Oui, c'est bien
donc, ça veut donc
bien
dire que le théâtre porte en lui, certainement une capacité de réflexion, d'émancipation, de remise en circulation de la pensée de chacun et aussi de la pensée de ce qui fait humanité ensemble, quoi. On se pense en tant qu'humain et puis on pense aussi à ce qui permet de faire l'humanité ensemble. Voilà ce qui guide mes choix de mise en scène, de texte, plutôt. Ouais. Et que, à mon endroit, voilà, j'essaie de donner ces outils-là à celles et ceux qui acceptent de venir s'asseoir devant mes spectacles.
Donc on peut aimer Guitry et Sénèque.
On peut, tout à fait.
On va en parler
de
tout
Britain
à l'heure.
De Britain à Britney, on peut tout ça.
Un sujet sur la démocratisation du théâtre, on en parle tout à l'heure. Puisque Thomas Joly est en notre compagnie jusqu'à 18h.
Un jour je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je... Jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins, jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins, jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes fais ce que tu veux. Peut-être le jour où tu ne me parleras plus. Un jour je voguerai moins. Peut-être le jour où la terre s'entrouvrira. Hier on se regardait à peine, c'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus.
Alain Bachung, résident de la République, légèrement piraté par un plantage de la console. Et ça, c'est... Il n'y a pas de hasard.
On a été inquiets.
Au lendemain du deuxième, du premier tour.
On s'est attaqué. Ouais,
les choses s'agencent.
Thomas Joly est en notre compagnie, le metteur en scène et comédien et patron du quai à Angers. On pourra donc voir la tétralogie Henri VI plus Richard III. Mais c'est déjà complet, alors?
Non, il reste des places.
Ah,
non,
d'accord. Les 4 et 5 juin, puisque ça dure 24. Et puis ce même spectacle sera proposé en deux parties les 11 et 12 juin, les 18, 19 et 25, 26. Vous travaillez aussi à la recréation de Starmania qu'on attend en novembre pour la scène musicale. Et Dragon, dont on a parlé tout à l'heure, au festival 100% à la Villette du 14 au 17 avril. C'est à partir de jeudi. Donc Thomas Joly avec nous. Et pour l'entourer,
Des Guillaume Meurice, qui était au chevet de Valérie Pécresse.
Ou
Lydia qui a terminé vers 6h du matin sa chronique, on ne sait pas ce que ça donnera. Et Juliette Arlo qui nous parlera andrologie.
Mes chers compatriotes.
Français, Français, je vais vous parler du bon choix.
Le journal de presque 17h17.
Parce que l'air de rien, les grandes lignes politiques que je défends sont les grandes lignes qui sont défendues par M. Poutine.
C'est très bien ça. Régis, tu veux une petite anisette?
Et on commence par les titres.
Et les résultats du premier tour. Donc les Français devront décider dans 15 jours qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen sera le prochain président de la République.
Oui, ce qui revient pour une grosse partie des Français à être au rayon alimentation du supermarché et avoir le choix entre un Kinder Surprise ou une pizza Buitoni.
Et dès aujourd'hui, Emmanuel Macron a repris la campagne. Il s'est rendu dans des villes des Hauts-de-France où Marine Le Pen est bien implantée.
Oui, et si c'est ça le concept d'aller braconner sur les terres de l'autre, eh bien on devrait pas tarder à voir Marine Le Pen au MEDEF.
Et des brèves ?
Eh oui, le taux d'abstention des brèves est de 0%. Tenez-vous bien. Eh ben, donc elles seront toutes les deux là en fin de journée. Commençons d'abord par présenter nos excuses.
À nos auditeurs, car France Inter a été victime d'un piratage hier soir au moment de l'annonce des résultats du premier tour. Un message anti-système visant notamment, je cite, les politiques, les technocrates et les journalistes, diffusé sur la fréquence du 20e arrondissement de Paris.
Eh oui, ouais. C'est malheureusement pas la première fois que notre station est victime de piratage cette année, régulièrement le mercredi matin aux alentours de 7h20. Piratage.
Non, Alex. Non, là, c'est la chronique d'Alexandre Devecchio. Là,
ça. Sûr de ça On va quand même diligenter
l'enquête. Ouais, je suis d'accord. Passons à cette grande soirée de premier tour.
Et donc. Oui, commençons par le troisième homme, Jean-Luc Mélenchon, qui a envoyé un message très clair à son électorat.
Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen.
Alors, je vais vérifier, c'est pas un hologramme qui a bugué. Il l'a bien dit trois fois. Voilà.
Passons au plus petit candidat. Philippe Poutou est arrivé avant-dernier avec seulement 0,8% des suffrages.
Et oui, un résultat qui en dit moins sur Philippe Poutou que sur l'influence supposée de Guillaume Meurice auprès de l'électorat français.
On est peu de choses. Oui.
Jean Lassalle, lui, a obtenu 3,1% des voix, soit le double de son score en 2017.
Bah, cohérent. Parce que s'il y en a un qui est habitué à voir double, eh ben, c'est bien Jean Lassalle. Donc,
voilà. Et puis, malgré son score décevant, 2,3%, Fabien Roussel a promis une suite aux jours heureux.
Oui, mais non, il ne parle pas politique, là, il parle météo. Avec le printemps qui démarre, les jours heureux, ça signifie le retour de la saison des barbecues, oui, ça lui plaît bien.
Valérie Pécresse, n'ayant pas non plus obtenu les 5%, elle a appelé les Français à une aide d'urgence pour boucler le financement de sa campagne.
Et oui, dans cette campagne à droite, ce n'est pas l'absence de Sarkozy qui a pesé, c'est le décès de Liliane Bettencourt et Mouammar Kadhafi qui ont écouté.
Pécresse qui dit s'être elle-même endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros après sa déroute électorale.
5 millions d'euros. Enfin, en tout cas, c'est pas les cours de théâtre qui lui ont coûté si cher que ça.
Qui permet les petits couacs qui ont émaillé ce premier tour. Sachez qu'à Marseille, une pile de bulletins au nom d'Éric Zemmour aurait été dérobée en début de matinée.
Ouais, sûrement le coup d'une personne qui avait peur. Peut-être.
Peur de voir Zemmour au second tour, Valéné ?
Non. Peur d'une prochaine pénurie de PQ. C'est un petit peu d'avance.
Et comme on vous le disait, la campagne a repris ce matin pour Emmanuel Macron qui s'est rendu dans les Hauts-de-France.
Eh ben, ça lui changera parce qu'à l'habitude, il prend les gens de haut en France.
Il a été interpellé en rue pour une dame l'a interpellé pour rappeler l'une de ses formules choc qu'elle n'avait pas très très bien pris.
Emmerdez les non-vaccinés, ça vous l'avez dit.
Oui, mais je l'ai dit d'une manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit.
D'accord. Non. Affectueuse, emmerdez les gens, d'accord.
Quand vous le prenez comme une insulte, oui.
Mais quand vous dites. Quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, mais c'est mal franc, je ne dis pas.
C'est pas ça, c'est une insulte. Non, ça c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit.
Voilà, c'est une insulte, mais c'est pas ça que je l'ai dit. Pas comme ça. Emmerdez les non-vaccinés, c'était de l'affection. Il avait bien expliqué à cette femme. Quand il a diminué les appels, c'était pour titiller les jeunes. Et quand il a nommé Roselyne Bachelot ministre de la Culture, c'était plus pour amuser les gens du spectacle. Je pense que c'est là qu'on en est.
Et les brèves.
Et les brèves à Dax. Elle achète une voiture électrique à recharger chez soi, Mévi, au quatrième étage d'un immeuble. Une écolo qui manque de pragmatisme. Je crois qu'on a affaire là au profil type de l'électeur Yannick Jadot.
Et la dernière ?
Et la dernière aux États-Unis, un parachute de de 35 mètres de... Une parachutiste de 35 ans heurte le sol à 200 km/h et survit miraculeusement. Et joli message d'espoir pour la suite de la carrière d'Anne Hidalgo.
Merci Alex Vizorek. Eh bien, continuons alors sur ce sujet avec Thomas Joly, car il y a deux choses qui n'ont pas changé par rapport à 2017. L'affiche du second tour Macron-Le Pen et la coiffure de Nathalie Saint-Cricq. Il y a des bases dans la démocratie. Et un troisième truc aussi bien plus ancien, après le vote utile, on nous refait le coup du vote barrage.
La marine, faut pas l'affronter. Faut l'encercler. Et qui pour l'abattre ?
qui? Et si je mettais un S à qui? Bon, d'accord, c'est pas très français. Et quand le mal a toutes les audaces, le bien doit avoir tous les courages.
C'est Jean Dujardin dans le rôle de Nicolas Sarkozy dans Président, le film d'Anne Fontaine. Alors Thomas Joly, beaucoup de Français sont atteints au moral ce matin.
Moi aussi. Hein.
Voilà, j'allais vous demander si vous étiez atteint aussi. Ça va pas fort. en voyant une partie d'une captation du Dragon, parce qu'on n'a pas pu voir sur scène la pièce qui sera donc jouée au Festival 100% à la Villette, le Dragon joue avec la peur. C'est effectivement une pièce sur le totalitarisme. Le joug de la peur et de ce dragon sur tout des habitants, un village, enfin une ville. Est-ce que les mécanismes de la peur dans le spectacle et le mécanisme dans la peur dans la politique ont des traits communs?
Alors, vous avez raison, c'est un climat, c'est un pouvoir qui prospère sur la peur. Moi, j'aime mettre ces questions-là sur le plateau. J'aime mettre des monstres, en fait, sur le plateau. Pourquoi? Parce que ces monstres-là, le théâtre met une loupe, en fait, sur ces humanités monstrueuses et nous permettent à nous de, peut-être de s'interroger sur nos propres endroits de monstruosité. Parce que il y a ce dragon, on en parle, mais ce que dit Evgeny Schwartz aussi, c'est aussi cette population qui a peur. Cette population qui est, laisse des petites parts d'humanité mourir en elle pour créer des petites parts de monstruosité à l'intérieur d'elle-même avec des petites de la délation, de la violence, de l'injonction, ben bref, des petites choses, de la courtisanerie, etc. Et donc ça, c'est la peur qu'on a, qu'on présente sur la scène. Moi, c'est exactement la même peur que je vois dans la vie. Donc, pour répondre à votre question, oui.
Et quand Emmanuel Macron s'appuie depuis 5 ans un peu sur « moi ou le chaos », est-ce qu'il joue au Lancelot, le personnage de l'étranger, face au dragon? Parce que ce que dit la pièce aussi, c'est un dragon nous protège des autres dragons, empêche qu'ils soient plusieurs. C'est toujours bien d'avoir un dragon à la maison pour se protéger des autres, etc. Il y a tellement de...
Ce à quoi Lancelot répond, à ma connaissance, tous les autres dragons ont été exterminés. Donc en fait, en réalité, parce que moi ou le chaos, mais en fait, en réalité, c'est bien ça que moi, je trouve difficile ce matin dans le résultat, enfin depuis hier soir, c'est que... Éric Piolle disait ce matin qu'il en avait, que les castors qui font barrage étaient fatigués. J'ai trouvé cette image assez juste. Moi, j'aurais préféré effectivement en 5 ans cette question de l'extrême droite recule en réalité. Je pense que la société avec ce Covid qui nous est passé dessus, mais aussi ce flou écologique, ce flou économique, ce flou sanitaire, et maintenant aussi ce flou politique crée de la peur, et que donc pour faire société, on a besoin certainement de quelqu'un au pouvoir qui rassemble et qui fait que notre société puisse faire humanité ensemble, tout simplement. Parce que toutes ces divisions et ce fendiment qu'on vit là, il faut que la politique puisse le réparer, et c'est pas ce qui se passe. En tout cas, c'est pas le projet, dans les deux projets auxquels, ce n'est que mon avis, ce n'est pas dans ces projets-là qu'on trouve cette réconciliation. Alors bien sûr que je voterai Macron certainement au deuxième tour, je vais être très clair là-dessus, mais j'aurais préféré avoir d'autres possibles.
Thomas Joly, justement, je pense que Walidia, voilà, il boit une gorgée d'eau, il va se lancer, je pense. Et à mon avis, il va appuyer votre propos. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Allez.
Alors, mes petites gauchières, ce fantasme utopiste extrêmement abstentionniste, ça a bien chialé hier. Vous allez vous habiller comment pour faire vos adieux à l'hôpital, l'école, les aides sociales, tout ça? Ce premier tour nous aura au moins mis d'accord sur un truc. Les sondages, on arrête. C'est bon, Zemmour donné à 17%, Pécresse gagnante au deuxième tour. Les instituts avec un peu de dignité, ils ferment la boutique sans pot de départ, normalement. On garde aussi l'idée de diffuser un film après les résultats. TF1 nous a balancé les visiteurs. C'est mieux que les plateaux télé des autres. C'était le défilé des condamnés par le tribunal. Zemmour, Le Pen, Copé, Verse. Bon, les LREM, ils ont un forfait de groupe, ils vont au tribunal en bus. T'avais plus de repris de justice que dans un épisode de 90 minutes enquête. Globalement, ce que j'ai compris de la campagne, c'est que la majorité des gens disent on veut plus d'oseille. Il y en a qui ont dit d'accord, il y en a qui ont dit non, et c'est ceux qui ont dit non qui sont à 28%. Bon, démerdez-vous avec ça. Perso, les résultats du premier tour, moi, ça me réjouit. On va tellement morfler, vous allez avoir besoin des humoristes pour rigoler de temps en temps, parce que qu'autour de nous, il y aura que des gens qui vont chialer du sang. Donc il va falloir faire avec. D'ailleurs, heureusement que Mélenchon n'est pas passé, sinon j'allais faire des chroniques sur quoi, moi. Ouais, ils ont encore augmenté les salaires, fait chier. Comment ça, la retraite à 60 ans, pourquoi pas 55, on n'est pas des flics, et je suis allé aux urgences, j'ai été pris en charge tout de suite, c'est quoi ce bordel? Voilà, moi si tout va bien en France, ça m'arrange pas. Je suis comme Zemmour, pour que mon business fonctionne, j'ai besoin d'une France qui va mal. La gauche peut remercier Jadot, Roussel, Hidalgo, hein, le clan des non-remboursés, hein, le clan des pourquoi j'ai hypothéqué la baraque, tout ça. Hein, et ça, je vous cache pas que c'est ma petite consolation. Hein, Jadot a lâché un appel au don, comment lui dire poliment qu'il aille se faire revenir la rondelle sur une téfale, hein, on va lui dire un cher bien sincère et bien guttural. Zemmour, 7%, Jadot, 4%. Donc il y a plus de gens qui veulent virer les arabes que de gens qui veulent sauver les arbres. Et vous pouvez inverser arbre et arabe, ça marche aussi. Hein. Alors Hidalgo, pour qu'elle ait une chance de gagner, il aurait fallu que tous les autres candidats meurent la veille, hein, et même Nathalie Arthaud, même elle. Le problème avec la défaite d'Hidalgo, c'est que maintenant, elle va se concentrer sur Paris. Hein, et elle va se venger. Elle va mettre des pistes cyclables dans le métro, elle va tout faire. Valérie Pécresse a aussi lancé un appel aux dons, elle doit rembourser 7 millions d'euros, elle est passée de plus riche de la campagne à plus pauvre. Hein, Pécresse, elle va découvrir la vie de beaucoup de Français, elle a découvert, elle peut pas payer son crédit et les huissiers vont débarquer. Elle a tellement plus de thunes que si elle devait voter aujourd'hui, je crois qu'elle voterait Poutou. Pour le second tour, donc apparemment Mélenchon n'a pas assez rassuré. Oui, son programme était plutôt redistributif, équitable, mais il crie. mais Macron il crie pas, mais il te crève un œil et il te coupe la main. Il va assassiner tout ce qui se rapproche de près ou de loin d'un service public. Un Nordal Lelandais à côté, c'est Dora l'exploratrice. Même Macron, je pense qu'il est surpris du résultat. Quoi ? McKinsey, c'est passé ? Je te crois pas, dis Oulah. Hein ? Ma parole, au prochain mandat, je vais les déboîter sévère. Je mets Benal à la justice, la retraite à 115 ans, j'osais pas lancer mon projet de TVA sur l'oxygène, mais là, hein, je crois que je vais taxer les cheveux. Hein, ils se foutent de notre gueule au point que Castex a pris un jet privé pour aller voter. Ça nous coûte 10 000 balles d'argent public plus 4 tonnes de CO2 parce qu'il n'est pas foutu de remplir une procuration. Et après, il va venir nous dire il faut se serrer la ceinture et l'environnement, et c'est un portail, et t'es pipi sous la douche.
Il est bien cet accent.
Ouais, il est pas mal, je l'ai bossé. Macron, selon lui, n'a pas su endiguer l'extrême droite. Hein, quand tu laissais Darmanin charcuter des tentes de migrants, Blanquer se battre contre le wokisme et que tu demandais une note sur l'immigration à Zemmour, d'après toi, t'étais en train de combattre l'extrême droite, là ? Hein, c'est comme si un mec te racontait une bagarre et là, il me regarde de travers, il me parle mal. Moi, qu'est-ce que je fais ? Direct, je le suce ? Non, ça marche pas. Si Macron veut mon vote au deuxième tour, il va falloir me séduire. Hein, je suis farouche, je vais faire un petit peu ma mijaurée.
Ouais. Ah oui.
Charline avait une réplique. Hein,
tu vas pas faire barrage avec le Front Républicain?
Je sais pas. Faut voir ce qu'on me propose. Déjà, il a 2 semaines pour déboulonner la statue de Colbert. Hein, et lui-même, avec ses petits bras et une clé de 17. Hein, va falloir qu'il me traite comme un Saoudien. Hein, je veux le thé, les cornes de gazelle, les putes et une remise sur les rafales. Il faut qu'il nous fasse un massage avec finition, le pépère. Sinon, on bouge pas. Hein. Ça fait 5 ans qu'il joue avec nos nerfs. Donc là, pendant 2 semaines, on va jouer avec les siens. Hein, il va arriver au débat du deuxième tour avec une calvitie. On a le choix entre une qui veut nous péter les dents et l'autre qui veut nous fister. Hein, excusez-moi de prendre le temps d'en discuter avec mon dentiste et ma prostate. On va aussi remercier les journalistes, les éditorialistes, les manches gamelles putaclic qui prennent un ton sérieux parce qu'ils ont un stylo dans la main pendant qu'ils déroulent un tapis rouge aux idées d'extrême droite en espérant faire de l'audience pour vendre des espaces pubs de voitures que personne peut acheter. Hein. Bon, je suis un peu colère. Hors journaliste, mention spéciale à Cyril Hanouna qui a explosé les stats. Hein, selon le CNRS, 53% du temps d'antenne politique pour l'extrême droite dans TPMP. Ouais, c'était la recette. Hein. Un facho, un clash, un jus du cucu. Entre les deux, il demande à Loana si elle arrêtait de boire et hop, la pub. Enfin bref, d'habitude, plus de questions que de réponses. Est-ce que ce pays ne mérite pas mieux qu'un chantage à l'extrême droite avec un président élu par défaut ? Est-ce que ce pays ne mérite pas mieux que certains journalistes carpettes incapables de contradictions ? Est-ce que comme Johnny, on fera des obsèques nationales à Joule ? Hein, ouais, rien à voir, mais excusez-moi de vous faire penser à autre chose.
Walidia, merci. J'étais tellement absorbée par votre flow que j'ai oublié ma réplique.
Vous voyez les deux stagiaires, tu peux faire de la pub pour mon spectacle.
Il y a un grand metteur en scène ici,
je sais pas, parce que...
qui n'est pas prêt de vous engager tout de suite. S'il y avait une réplique, vous l'avez pas mis au bon endroit.
On me dit que j'ai pas le temps parce que vous avez fait 6 minutes de chronique.
Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen de communiquer depuis que l'orage est passé. Je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. Faut que je passe. We'll be right back.
tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances.
Sur France Inter, nous avons invité Thomas Joly, qui était avec nous jusqu'à 18h. Et il y a aussi dans ce studio, avant de reparler théâtre avec vous Thomas, il y a Guillaume Meurice.
Oui, alors aujourd'hui je vous propose une expérience anthropologique. Une plongée au cœur du seum. Voilà, une soirée avec des électeurs de Valérie Pécresse. Alors c'est un seum de qualité, hein, c'est un seum avec un compte en banque à 7 chiffres, un seum avec un patrimoine et des stock options. J'étais donc hier soir à la Maison de la Chimie. C'est là où Valou avait prévu de fêter sa quasi-victoire. La Maison de la Chimie, c'est l'endroit où Manuel Valls avait l'habitude de rassembler ses soutiens. Donc c'est vraiment un lieu important dans l'histoire du seum français. Hein, c'est un lieu qui pourrait accueillir la Fédération Française de Tennis, vous voyez, par exemple. Donc je suis arrivé un petit peu tôt parce que j'aime bien l'ambiance. J'aime bien l'ambiance. L'ambiance qui était sympatoche. Vraiment, je dirais, à la cool, détente.
L'ambiance, pour le moment, est bien. On est tranquille, on est calme. On sait qu'on a fait une bonne campagne sur le terrain et on verra la suite après.
Le champagne est au frais ?
Le champagne est préparé, il est à bloc.
Est-ce qu'il va servir ce soir ?
Ah bah évidemment.
On est sûr de ça ?
Ah bah peu importe le scrutin.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est ça qui est bien avec l'alcool. C'est qu'on peut s'en servir pour fêter la victoire ou se noyer dedans. Attention toutefois à pas prendre de vin chaud. Hein, ni de bière à midi, car ce n'est pas de l'alcool, selon l'Institut de Toxicologie Charline Valounacker. À noter d'ailleurs que sur les tables, il n'y avait que du Perrier. Hier soir, que du Perrier, donc un mélange de larmes et de bulles. Prémonitoire, peut-être, en tout cas ambiance cool.
Valérie Pécresse a amené un très bon programme, un programme ambitieux, un programme vraiment clinique pour redresser ce nouveau élan. Ouais.
Est-ce que ça veut dire quelque chose de redresser ce nouvel élan ?
Oui.
Oui, c'est ça. C'est l'inverse de faire décroître cette ancienne impulsion qui n'a rien à voir avec dynamiser un actuel essor, bien évidemment. Alors tout ça, c'était avant 20h. Mais après 20h, le peuple de France, fournisseur officiel de Somme, a débarqué. Et donc, voilà, comment est le moral ?
Il est down. Down. Personne ne s'attendait à ça. Hein.
Alors, qu'est-ce qui a foiré ?
Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne comprends pas.
Je vous sens sous le choc.
Complètement. Et je comprends pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des trucs derrière elle ? Je sais pas, je comprends pas.
Ouais, sûrement. Il y a sûrement des gens, en tout cas des électeurs, qui ont fait des trucs derrière elle, qui ont mis des bulletins avec d'autres noms que elle. Ça, moi, je suis pas expert en politique, mais ça, c'est ça qui a dû se passer. Faudra mener l'enquête. En attendant, il y a un choix à faire au second tour.
Moi, je vote blanc. Hein. Enfin, moi, je vote pas. Je vote pas pour les extrêmes et je vote jamais pour Macron. J'ai jamais voté pour Macron, c'est pas maintenant que je vote français.
Mais Macron, est-ce que c'est pas le même programme économique, par exemple, que Pécresse ?
Pas du tout.
Qu'est-ce qui différencie ?
Tout le monde dit ça, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses, j'ai pas tout en tête, vous savez, je suis tellement abasourdie, je peux pas vous dire.
C'est pas facile. C'était moi-même, hein, j'étais dans l'abasourdissement le plus total. Hein. C'est vrai qu'on est un peu perdu entre les deux programmes. Est-ce qu'il faut savater les pauvres à coups de trique ou à coups de latte ? Il y a des différences. Est-ce qu'il faut faire les massages du périnée aux riches avec la main ou avec la langue ? C'est toujours des petits détails, c'est dur de s'y retrouver. Et en plus, Macron, c'est un malin.
Il a rien fait, il a pris le programme, il a recopié. Il a changé les virgules.
Ah bah alors c'est le même programme.
Non mais le programme de Pécresse, c'est lui qui l'a pris.
Mais oui, mais alors s'il a le même programme que Pécresse, pourquoi vous votez pas Macron ?
Non, parce que moi je veux Pécresse, je veux pas Macron.
Ah bah oui, je sais, moi aussi quand j'ai le choix entre de la tarte au vomi et un gratin de mycose, je préfère même passer la pistache. Mais bon, tant qu'on aura un mode de scrutin pourri, ça fera des frustrés. C'est quand même un mode d'élection qui transforme tout le monde en stratège. Tous les citoyens deviennent des stratèges. On demande quand même à des gens comme Juliette Arnault devenir le maréchal Foch de la démocratie. Je veux pas être désobligeant, Juliette. Vous avez plein de qualités, mais vous êtes à la stratégie, ce que je suis au CrossFit. Techniquement, voilà. Non, il faut le dire. Bon, alors du coup, la 5ème République, ça donne ça.
On peut pas avoir fait pendant 5 ans de l'anti-Macron pour dire maintenant, demain matin, votez Macron.
Ah oui, alors comment vous allez faire?
Moi, personnellement, je sais pour qui je vais voter, moi.
Donc vous êtes plutôt pour Le Pen?
Pourquoi pas?
Est-ce qu'il est définitivement mort, le barrage républicain?
Mais quand on fait 5%, on va pas faire barrage à grand-chose, hein.
Oui, mais ça serait un petit barrage républicain.
Ouais, un petit barrage, alors, ouais, bon. Et s'ils veulent faire un dodan républicain, ils peuvent, ce sera pas mon cas.
C'est vrai que ce serait un petit dodan républicain, en papier crépon. Même à mon avis, c'est celui que Macron était censé mettre en place dès 2017, mais il a confondu, je crois, les parpaings avec les marchepieds. Je crois qu'il il s'est gouré. Allez, je suis retourné voir, pour terminer, le jeune du début qui nous parlait de champagne. Et bon, il parlait plus trop de champagne, il parlait plutôt de la barre des 5%.
Ah ben, je pense qu'elle le fera parce que là, on est en Île-de-France et les bureaux viennent de fermer. Donc, je pense qu'on pourra rembourser largement la campagne.
Et si longtemps vous allez faire?
On va se cotiser.
C'est vrai, vous faites un qu'est-ce qui se banque?
On va faire un Tipeee.
Vous êtes prêt à donner de votre poche un peu ou pas?
S'il faut, bah, on verra en temps et en heure.
Mais vous avez du pognon pourtant ici.
Ah bah oui, oui, justement.
Bah oui, justement. Bah oui, justement. C'est parce qu'ils le donnent pas en fait. Qu'ils en ont, je suis con moi aussi. Voilà, en tout cas, on a le choix entre la droite raciste et la droite du fric. Alors oui, j'étais hier avec le somme de droite, mais je crois que le somme de gauche est un chouïa plus violent, il me semble.
Guillaume Maris, merci. Encore pour 15 jours de folie, de chronique de Guillaume, bien sûr. Nous sommes en compagnie de Thomas Joly, directeur du Centre Dramatique National Le Quai d'Angers. Et voici le thème que vous avez suggéré, monsieur le directeur. Si le théâtre est un remède aux maux de la société, il faudrait que tout le monde puisse y entrer. La démocratisation culturelle passe-t-elle par une dose de théâtre populaire, un pass culturel ou rapprocher les salles des quartiers? La fréquentation des théâtres connaît un petit coup de mou. Il doit devenir peut-être plus attrayant. Alors si tu cherches une pièce dans ta région, envoie Molière au 6-12-12. Molière au 6-12-12.
Celui-ci avait sur le spectacle des idées extrêmement fortes, essentiellement axées sur le fait de faire bouger cette société. Il projetait de monter un happening politique pendant les vacances de Pâques pour savoir, selon son expression, si oui ou merde, c'était possible de faire du théâtre de rue sur les lieux de production dans la ville de banlieue. Il cherchait des compagnons pour cette aventure exaltante. Nous nous sommes précipités.
Libéré Angela Davis!
Libéré Sacco et Vanzetti!
Libéré Oshimine!
Le spectacle avait commencé sous les meilleurs augures. Nous avions réussi à hypnotiser les travailleurs grâce à notre façon anticonformiste de traiter les sujets brûlants.
Tous les prisonniers politiques!
Libéré Billy the Kid!
Malheureusement, quand Antoine, pour symboliser la mort de la propriété privée, avait rempli le casque du contremaître de mayonnaise à Morin, on avait dû écourter la représentation au plus vite. Nous arrivâmes à la conclusion que les choses finiraient par bouger un jour, mais que ce serait très, très, très long.
Christian Clavier dans Mes meilleurs copains, le film de Jean-Marie Poiré. Le journal Les Échos, notamment, consacre un article assez récent sur la démocratisation culturelle au théâtre, qui passerait, dit le journal, notamment par des pièces plus proches des problématiques du public. C'est un de vos sujets de prédilection, évidemment, Thomas Joly. Est-ce que démocratiser le théâtre, ça passe par populariser le théâtre, le lieu autant que la programmation?
Merci de cette question, j'allais y venir. Au premier cours de théâtre qu'on prend, enfin, en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, on nous parle de l'art de l'ici et maintenant. Donc là on en a parlé, j'essaie de trouver, moi, de dégainer des pièces, peu importe quand elles sont écrites d'ailleurs, qui parlent d'aujourd'hui, ici et maintenant. Et ben, le théâtre parle d'ici et maintenant, et les théâtres, les lieux de théâtre devraient aussi être des lieux de l'ici et maintenant, des lieux où se brassent les différentes pensées, les différences entre tous les gens aussi. Et c'est pas juste une lubie à moi de croire une utopie comme ça d'un monde merveilleux. C'est inscrit dans la loi, en fait. Ça s'appelle les droits culturels. J'ai repris la définition parce qu'elle est intéressante. Les droits culturels, ça vise à faire reconnaître le droit de chaque personne à participer à la vie culturelle, de vivre et d'exprimer sa culture et ses références dans le respect des autres droits humains fondamentaux. C'est bien une possibilité de vivre ensemble, en tout cas. Mmh. C'est un effort. La démocratisation... Le mot démocratie, c'est pas parce qu'il est juste inscrit au frontispice de notre République française que c'est acquis. En réalité, c'est un boulot de tous les jours. C'est un travail, c'est compliqué. Oui, quelqu'un n'a pas le même avis que toi, n'a pas la même culture, la même langue, la même sexualité, etc. Et c'est pas pour autant qu'il va disparaître. moi, je veux bien qu'on soit homophobe, sauf que les homosexuels sont dans leurs droits et ils sont là. Donc, comment on fait pour travailler ensemble et bosser ensemble, vivre ensemble? Bah, les lieux doivent être, à cet endroit-là, à mon avis, porteurs de possibles. Et c'est ce qu'on essaye de faire à Angers, mais ce que font plein d'autres directeurs et directrices partout dans le théâtre public. C'est-à-dire, bah, c'est pas juste un lieu où on vient pour voir un spectacle, mais on vient écouter des lectures, des débats. On vient à Angers, par exemple, il y a des lecteurs et des lectrices qui choisissent une partie de la programmation. Oui. Des pièces, par exemple, voilà, de faire participer, d'être une caisse de résonance non seulement de la grande actualité, mais aussi de la cité et puis de chacun. Voilà, et de chacune.
Donc il y a bien d'idées à développer pour le prochain ministre de la Culture.
Eh ben je pense que ouais, l'institution, elle a, comme le disait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon hier soir, l'institution aussi, l'institution culturelle, doit être réaérée, je crois. Mmh.
Si, heureusement, on en parle bientôt, je ne sais pas, parce qu'on entend assez peu parler de mot culture.
La culture peut-être dans l'entre-deux. Très présente.
Pas tellement, on verra. Non, malheureusement.
Reparlons-en justement de culture avec Juliette Arnaud, plutôt du côté des livres. C'est ça ?
Oui, et parce qu'il est de mon devoir, à mon tout petit niveau de chroniqueuse littéraire, de coller à l'actualité la plus brûlante, j'ai su repérer la nouvelle la plus saillante de ces derniers jours. Les refiançailles 20 ans après de la chanteuse Jennifer Lopez avec l'acteur Ben Affleck.
Mais c'est pas vrai.
si, Alex. Un couple hétérosexuel d'un âge mûr et néanmoins charmant, le mien. Jennifer Lopez expliquant de la sorte pourquoi ces fiançailles-là seraient plus heureuses que les premières. Elle dit « Nous sommes plus âgés maintenant, nous sommes plus intelligents, nous avons plus d'expérience, nous avons des enfants maintenant ». Sous-texte, ce qui va se jouer dans notre couple ne relèvera pas d'avoir un enfant ou pas, puisqu'on est déjà pourvu. Sous-texte, peut-être que c'est ce qui a coincé entre eux. Précédemment, c'était en avoir ou pas des enfants. Et si c'est pas, comment on fait pour ne pas en avoir? De là, deux questions que je ne poserai pas aux hommes autour de cette table. Qui c'est qui fait le ménage chez toi et qui s'occupe de la contraception dans ton couple? Parce que je pense qu'il me répondrait « Ouais, d'accord, mais
c'est
qui
c'est ?»
C'est
pas la même personne.
Ouais, ou alors « Qui c'est qui porte les choses lourdes ?» Les choses lourdes, genre quoi, ton ego ? Bref, les femmes de la génération de Jennifer Lopez ont réglé ce problème des décennies durant en étant cette formule sous pilule. Et puis, la pilule, puissant instrument de la libération des femmes en son temps, s'est révélé, comme d'autres médicaments, avoir des effets secondaires, graves parfois. Et donc est apparue la génération No Pilule, qui remet en question le fait que ce soit systématiquement aux femmes de rogner sur leur bien-être pour assumer les risques liés à la contraception. La question n'est donc pas « faut-il arrêter la pilule ?» mais « que peut faire notre société pour répondre à cette nouvelle demande des femmes d'une contraception sans effets secondaires, non polluante et égalitaire ?» Ça vous paraît totalement anecdotique par rapport à la grande politique ? Sachez qu'une meilleure répartition de la charge mentale de la contraception en proposant un soutien de la contraception masculine de la part de l'État existait dans au moins deux des programmes du premier tour. Bon, vu qu'on ne risque pas d'en entendre causer durant les 15 jours qui arrivent, je vous propose ce roman graphique au dessin particulièrement doux et sensuel qui s'intitule « L'homme sous pilule ». Des dessins pour illustrer l'histoire douce et sensuelle de Lou et Max, couple hétérosexuel, encore en âge de procréer. Ils n'utilisent donc plus de préservatifs, puisque ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Mais Lou a peur de la pilule, alors ils pratiquent tous les deux la méthode dite du retrait. Ouais. Et puis un jour, Max se dit qu'il est OK pour endosser la charge mentale de la contraception dans leur couple. Max dit « Moi, tu sais, je veux bien prendre la pilule. » Sauf que voilà. Ça n'existe pas, sauf si vous êtes une souris mâle de laboratoire. Alors Max prend son bâton de pèlerin, dans tous les sens du terme, et entreprend un chemin initiatique pour découvrir les différentes offres en parlant avec d'autres hommes dans le même questionnement que lui, des offres totalement inconnues pour une femme de ma génération ou celle des bénifères. Le slip contraceptif, les injections de testostérone, la vasectomie. La castration à la fourchette rouillée. Non, là, je déconne. Des méthodes de contraception inconnues pour le plus grand nombre d'entre nous parce que c'est une tannée. Et pourquoi c'est une tannée? Parce que c'est entendu, c'est aux femmes de gérer. Reste Max et Lou et tous les autres couples hétérosexuels et leurs questions. On fait comment et le comment, quel poids a-t-il sur la viabilité de nos amours? Question subsidiaire. Est-ce que Gainsbourg avait raison ? Est-ce que c'est le temps qui ronge l'amour comme l'acide ? Merci, bisous, merci.
Vous avez 4 heures. Juliette Arnaud, merci beaucoup Juliette. Toutes les références, bien sûr, sur la page de notre émission. Thomas Joly, autre thème que vous nous avez suggéré, c'est Elon Musk qui a déjà envoyé dans l'espace des touristes une voiture, une pizza, et qui s'apprête à envoyer cette année de la publicité dans l'espace avec sa société SpaceX. Il prend les pires trucs qu'on trouve sur Terre pour les envoyer là-haut. Il est à deux doigts d'y envoyer le second tour de la présidentielle, paraît-il. Donc Elon Musk va proposer un satellite publicitaire, invisible depuis la Terre, mais qui enverra des flux vidéo pour voir de la réclame et des logos. L'espace est devenu un terrain de jeu.
Un ticket pour l'espace. Pour décoller, il suffit de gratter.
Voilà, monsieur le Premier ministre. Dès demain, le spot passe sur toutes les chaînes, ça va être énorme. La France entière va se passionner pour le ticket pour l'espace.
Franchement, Verberger, vous pensez que ça peut marcher?
Monsieur le Premier ministre, nous sommes bien d'accord.
Vous et moi, nous voulons maintenir tel quel le budget de la recherche spatiale. Nous voulons que les Français acceptent toujours qu'une partie de leurs impôts serve à préparer le futur.
C'est ça.
Il n'y a qu'une solution, il faut des associés, des impliqués.
C'est ça l'objet de ce jeu. Ils vont adorer, je vous dis.
Notre idée maîtresse, monsieur le Premier ministre, c'est que la France, d'en bas, a elle aussi le droit de monter là-haut.
André Dusselier, Éric Négard dans Un ticket pour l'espace, film d'Éric Lartigot. L'espace est un sujet qui a capté votre intérêt, Thomas Joly. Est-ce que Jeff Koons qui envoie des œuvres sur la Lune, Elon Musk de la pub, vous qui voyez très grand toujours, est-ce que le théâtre et l'espace, vous avez développé une réflexion là-dessus, non ?
Alors, non, parce que, non, je préfère rester bien là au niveau des gens et de la réalité, de la vérité, voilà, de la vie. Non, ce qui me fascine d'abord, c'est que je crois qu'on ne le verra pas de la Terre, ce qu'il va projeter de là-haut, on regarde sur YouTube des pubs qui passent dans l'espace.
Voilà,
déjà, je trouve c'est assez un peu absurde comme idée, mais bref. Non, ce que je trouve chez Elon Musk qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est, et là c'est pour faire un petit pain avec Starmania, c'est que c'est vraiment un personnage qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup penser à Zéro Janvier dans son espèce de folie. Même s'il y a d'autres personnages avec des noms en Z qui font aussi penser à Zéro Janvier. Mais que bon, cette œuvre, de toute façon, elle est un peu partout. Et que cette espèce de jusqu'où, en fait, parce que Starmania, c'est ce que pose l'œuvre comme question. Jusqu'où on va, et c'est le fameux mythe d'Icare. Plus on s'approche du soleil, et plus on va se brûler les ailes, et on va tomber. Et je comprends pas bien l'idée qu'on connaît la fin de ce mythe, mais qu'on le fait quand même.
On y va quand même. Voilà. Elon Musk aurait voulu être un artiste.
Certainement. Ouais. Certainement, il l'aurait très bien chanté. Certainement.
Donc oui, je rappelle, hein, Thomas Joly, que vous travaillez actuellement sur la recréation de Starmania. On a très 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 hâte.
Mais moi aussi.
Ouais, ouais, donc c'est prévu en novembre à la Scène Musicale.
Tout à fait, ouais.
C'est ça, on peut déjà chercher les places, tout ça ?
Mais on peut déjà prendre ses places.
Oh là là, ouais, là, ouais. Là, là. Thomas Joly, on voudrait aussi profiter de vos talents de comédien, si vous êtes d'accord, en vous proposant un sketch.
Et on va refaire la soirée électorale d'hier soir. Charline et Valérie Pécresse, Guillaume Mélenchon, vous êtes Macron et mèche oblige, je suis Laurent Delahousse. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette soirée électorale. On part tout de suite au QG de Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, vous êtes à 19%, vous êtes le troisième homme de cette campagne. Quelle est votre réaction ?
Le dindon de la farce, c'est moi ! Et moi le cocu dans cette affaire.
On vous sent déçu.
Ouais, bah, c'est foutu, c'est ma dernière présidentielle, je me gaufre à un mètre du bol de sangria. Ah, nous recevons. En fait, tu l'as envoyé toutes les alertes au début, le réalisateur, en se disant comme ça, je peux partir plus tôt. Nous avons des nouvelles estimations. Il n'y a plus que 2 points d'écart entre Marine Le Pen et vous.
Ah, super, ça me fait une belle jambe. Non, c'est foutu. Il n'y a plus personne qui veut de moi, puis c'est merde.
Allez, on se rend QG de Monsieur Macron. Est-ce que vous nous entendez ?
Monsieur Macron.
Non. Oula. Monsieur. Oula, Monsieur le Président. Vous êtes en direct sur France 2.
Taisez-vous. Je suis en direct à la télévision.
Alors. Quelle est votre réaction après ces premiers chiffres ?
Vous savez, rien n'est joué, il faut rester humble, même si, évidemment, on est les meilleurs. Et j'appelle tous les Français, les Françaises, les agriculteurs, les taxidermistes, les skieurs de fond, les amateurs de boule-boule.
Oui, je crois qu'on a compris.
À voter pour moi, car rien n'est gagné.
Très bien. Ah, nous avons les nouveaux chiffres. L'alerte est à nouveau pas partie, mais je l'ai vue. 0,8 points. Ah, elle est arrivée. Oui, oui, d'écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
Ah, c'est bon, c'est la Mélenchonada, je vais la voir, je vais être président, et j'attaque Poutine, dans 2 mois je dirige l'URSS.
Bah très bien, voilà, ça va bien. On va au QG de Valérie Pécresse.
Bonsoir à tous.
Alors vous êtes à 4,8, quelle est votre réaction ?
Oh, vous savez, les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien.
Oui, hein, là c'est plus des sondages, là c'est les premiers résultats du premier tour.
Quoi ? C'était aujourd'hui le premier tour ?
Voilà, et vous êtes en dessous de 5%, Madame Pécresse.
Oh putain, il faut que je passe des coups de fil.
Ah, vous devez appeler les ténors du parti ?
Hein ? Non, il faut que j'appelle mon banquier, parce que j'ai perdu plus de 5 millions de boules, moi, dans toute cette affaire.
Très bien.
Brigitte, t'as bien sorti le champagne ? Rendez-vous à la rotonde !
Attendez, Monsieur Macron, on vous entend encore.
Brigitte, tu as bien sorti le programme, parce qu'il faut travailler dur pendant cet entre-deux-tours, car rien n'est joué.
Ah, nouveau chiffre, l'alerte est arrivée au bout ! Ce sketch va super bien se terminer. 1,5 c'est reparti dans l'autre sens, Monsieur Mélenchon, Marine Le Pen, et
c'est loin. C'est foutu, je vous l'avais dit, tout est joué, je vais aller élever des chefs dans le Larzac.
Ah non, hein, rien n'est joué.
Quelle bande d'incompétents, des abrutis incapables de réussir quoi que ce soit.
Madame Dati, votre micro est allumé.
Oui, je le savais, c'est même pour ça que je l'ai dit.
Eh ben, vous fatiguez tous, allez, rendez-vous dans 2 semaines.
Thomas. Thomas Joly en Macron, vous êtes fabuleux. Eh ben, fabuleux. Ben,
vraiment. J'aurais tellement aimé un autre rôle.
Thomas Joly, je rappelle donc que Dragon de Evgeny Schwartz, créé en janvier au Quai d'Angers, sera joué au Festival 100% à la Villette à partir de jeudi du 14 au 17 avril. Et la tétralogie Henri VI plus Richard III de William Shakespeare sera jouée en intégrale pour une représentation unique les 4 et 5 juin au Centre Dramatique National d'Angers, le Quai bien sûr. Avec ce spectacle sera aussi proposé en deux parties, hein, à plusieurs dates, notamment les 11 et 12 juin, 18, 19, 25 et 26 juin. Et puis nous attendons bien sûr Starmania en novembre. Merci beaucoup Thomas Joly.
Merci de votre invitation, c'était un plaisir.
Mais
merci.
C'était un plaisir.
Surtout ce lendemain de cuite.
Oui, oui, ça faisait du bien d'être avec vous, c'était un plaisir. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. À demain, nous recevrons Caroline Vigneault, ex-avocate devenue humoriste.
Oui, bon, ben, j'ai pas dit que c'était pas d'inter non plus.